Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.
Rebonjour à toutes et à tous, il est 14h42, on est toujours en direct ici au MIPIM, c'est la seconde journée du MIPIM. Alors on dit 34e ou 35e édition, ça dépend si on compte la phase Covid ou pas. En tout cas, voilà, définitivement un rendez-vous qui s'est installé dans la planète immobilière. Je le rappelle, plus de 100 pays en sont représentés. C'est pas rien pour parler de ce qui fait souche finalement dans tous nos pays, l'urbanité, la ville, l'immobilier en général, toute classe d'actifs confondus. La ville, c'est quelque chose qui se pense, qui se réfléchit, c'est un métabolisme lent qui évolue aussi en fonction des transformations anthropologiques de la ville, des hommes, de la société des hommes, mais aussi des régimes qui les gouvernent. D'ailleurs, on pourrait même faire des analogies entre l'architecture et les régimes politiques qui gouvernent. Ça serait intéressant même de s'y pencher. Mais pour parler de tout ça, c'est intéressant de rencontrer des personnes qui nous donnent un éclairage un peu particulier, voire une vision un peu holistique de la ville. Une grande dame de l'immobilier qui est avec moi sur le plateau, et je ne vais pas bouder mon plaisir. Bonjour Méca Brunel.
Bonjour, bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Très bien, en voyant la lumière, parce qu'à Cannes, il y a la lumière.
C'est vrai.
Il y a la lumière et il n'y a pas le vent froid d'habitude, donc c'est peut-être un bon signe, on va le prendre comme ça.
C'est vrai que là, on a une perspective comme ça magnifique, avec la chaîne de montagnes au bout, la mer et son horizon. Ça nous fait quand même beaucoup de bien. Moi, je suis très heureux de vous recevoir sur le plateau. Vous êtes, bien sûr, une grande dame de l'immobilier. Vous avez dirigé des grands groupes à l'échelle européenne également. Vous êtes la présidente de la Fondation Palladio. Vous avez succédé à l'emblématique Bertrand Defeydeau, qui a été l'un des fondateurs. Vous avez d'ailleurs été aussi également cofondatrice de cette fondation. Dans un premier temps, Méca, on va rappeler à notre public ce qu'est la Fondation Palladio et sa mission première.
Alors, la Fondation Palladio a été créée en 2008. Souvenez-vous, la grande crise des années 2008, la chute de Lehman, qui a créé une crise mondiale, sur une idée de Bertrand Defeydeau, où il a réuni un certain nombre de dirigeants de l'immobilier de l'époque, notamment les foncières et les promoteurs, pour leur dire il faudra qu'on réfléchisse à la manière dont on va, c'est pas la première crise, et dont on va rebondir dans l'avenir. À chaque fois qu'il y avait une crise, on faisait du cost-killing, on réduisait les collaborateurs, on se débarrassait des gens, on s'enfermait, on attendait que ça se passe, en attendant la prochaine. Et en attendant, on ne travaillait pas sur l'innovation, on ne travaillait pas sur la recherche, on ne travaillait pas sur les nouveaux concepts, etc. Donc la première idée a été, de Bertrand, était de donner des bourses à des doctorants et des post-doctorants dans les domaines d'innovation. Dans le domaine d'innovation en matière urbanistique, de la ville, technologique, tout ce qui fait que la ville est différente. Et quelques années après a été créé l'Institut Palladio. Il y a eu d'autres choses qui ont été créées entre-temps. L'Institut Palladio qui était de s'adresser au numéro 2 ou au cadre prometteur des entreprises de façon transversale sur le modèle de l'IHEDN, mais toujours avec un homme ou une femme politique comme parrain ou marraine, notamment des maires de ville, pour pouvoir accompagner et comprendre et parler de leurs problématiques face à cette transversalité.
Sans aucune contingence politique.
Sans aucune contingence politique, puisque c'était des sujets de fond qui sont regardés aujourd'hui, cette année. La marraine, c'est Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé. Et la promotion, le thème de la promotion de cette année, c'est soigner la ville, prendre soin de la ville. Donc,
ça vous parle quand on parle de la ville comme un métabolisme, non ?
La ville est un être vivant, où pullulent d'ailleurs des tas d'êtres humains, des tas de micro-organismes que nous sommes et qui contribuons à cette vivacité.
C'est intéressant comme image, hein. Vous prenez la ville et puis il y a plein d'êtres humains qui sont des cellules à l'intérieur de la ville.
Écoutez, en tout cas, si on considère que la ville, c'est une espèce de collection d'immeubles qui deviennent des ruines, ça fait Athènes, ça fait Persépolis, on peut les visiter, mais ça ne vous raconte pas la vie au quotidien. La ville est vivante.
C'est important ce que vous dites, très important.
Et de toute façon, tout ça c'est au service du vivant. C'est ça qui est le plus important, il me semble.
C'est très intéressant parce que j'ai une image qui me vient en tête.
Pardon, Sylvain, je termine juste.
Oui.
Et le dernier né, l'Université de la ville de demain.
Ah oui, alors oui.
Qui s'adresse cette fois au numéro 1, puisqu'on parlait il y a quelques années de la ville bas carbone.
C'est vous qui l'avez pensé, la ville de demain?
Non, c'est Bertrand de Feydeau. Mais moi, j'écoute toujours ce qu'il dit. Donc voilà. L'Université de la ville de demain, il est venu nous dire, ça ne suffit pas de s'occuper des cadres prometteurs et des numéros 2. Il faut s'occuper des numéros 1, puisqu'on parle du fait de l'environnemental et du bas carbone d'un côté, puisqu'on parle du social, du E et du S, eh bien il faudra qu'on travaille sur le G, la gouvernance, donc on réunit, au départ c'était un sommet une fois par an, on réunit les dirigeants, les numéros 1, de l'industrie de la ville au sens large, pour réfléchir ensemble la sphère publique, la sphère des entreprises et la sphère des ONG, de la société civile, pour qu'on réfléchisse ensemble aux problématiques qui se posent à nous, aux solutions qui peuvent être apportées pour qu'après, ça puisse descendre dans les hiérarchies et qu'on s'y engage. Et c'est ce qu'on fait à travers les actions collectives.
Est-ce que concrètement, ça fonctionne ?
Ça fonctionne très bien.
Quand je dis est-ce qu'on peut relier toute cette pensée, toute cette richesse de cerveau, finalement, à des objets concrets. Un petit clin d'œil à notre ami Philippe Journeau qui passe sur le plateau. C'est heureux. Philippe Journeau qui va nous retrouver bientôt. Qu'on reverra sur le plateau. Il me fait toujours le même coup à chaque fois. Il me fait aussi au MAPIC. Justement, concrètement, est-ce que ça s'illustre bien ? Parce qu'il faut livrer à un moment donné. Et est-ce que, je vais même aller plus loin, est-ce que dans cette livraison finalement d'idées, pour le bien de tous, hein, pour le bien de la cité, mais aussi pour le business, pour l'économie, pour tout cela, bien évidemment, il n'y a pas d'antinomie. C'est aussi une des solutions pour les élus locaux, pour les dirigeants qui n'ont pas forcément toutes les compétences. Mais cette compétence-là, vous la leur fournissez, vous la leur donnez ?
Alors, la Fondation Palladio, depuis le départ, n'est pas un think tank. Pourquoi ? Parce qu'on ne voulait pas dire ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. On a l'humilité de penser, et Bertrand de Feydeau l'a toujours dit, qu'on n'a pas la science infuse ni une vérité révélée.
Oui,
donc, on travaille ensemble. Eh bien, l'Université de la ville de demain, après le premier sommet, les gens nous ont dit « c'est très bien, nous avons bien travaillé ensemble, c'était super, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Donc, on a lancé des actions collectives. Qu'est-ce que c'est les actions collectives ? Ce sont des coalitions d'acteurs transversales, des trois secteurs que j'ai nommés, public, entreprise, société civile, qui, ensemble, portent une idée et la portent à échelle, sans demander de nouvelles lois, parce qu'on en a trop, il faut faire de l'économie circulaire de lois, et sans demander de nouvel argent, parce que
comment vous dites économie circulaire de
l'eau. Ben oui, il faut recycler, si vous voulez, pour le dire autrement.
C'est de vous, ça ?
Mais non, c'est un...
Économie circulaire de l'eau.
Ben oui, c'est un... On utilise... Vous savez, c'est quand vous rangez vos armoires, ce que j'ai fait il y a 2 ans, eh bien, vous trouvez des tas de choses dont vous aviez oublié leur existence. Eh ben, je suis sûre que dans la caisse à outils législative, et on le voit bien, il y a des tas de choses qu'on peut utiliser. C'est comme ça que des actions concrètes ont été faites, comme la géothermie de surface, qui permettrait à terme, ça a été porté par l'Université de la ville de demain, et rentrer dans la liste des énergies renouvelables de la France. À terme, une fois que la cartographie est faite partout en France, on pourra produire jusqu'à 100 TWh, l'importation des gaz russes, 90 TWh. La construction hors site, les pensions de famille, l'intensité d'usage, les 20% de ESS, que sais-je. Et ça continue et on a encore des choses comme ça. Et donc, en mettant, comme disent les Québécois, nos têtes ensemble, en réfléchissant ensemble, en utilisant ces transversalités de compétences, on peut travailler sur ces sujets-là et les porter à échelle. Par ailleurs, nous accompagnons tous les ans, à travers une université in situ, une ville moyenne, la première d'entre elles qui est devenue une véritable ville archétypale, c'est le maire qui est le pilote. Nous, on est là pour l'encouragement, pour l'aide, pour la connexion, pour mettre en contact qui veut changer sa ville. Et à ce moment-là, au lieu de que le maire, comme partout, hein, un jour c'est le logement social, un jour c'est la culture, un jour c'est l'école, un jour c'est la culture, un jour c'est le sport, eh bien, on y va massivement, on les accompagne dans ces réflexions. Et ils continuent à avoir les contacts, ce qui fait qu'ils peuvent accélérer la transformation. Il y a deux façons de faire. On peut être malheureux de dire oui, on n'avance pas vite, on aurait dû, on aurait pu, on devrait travailler de telle ou telle manière. On peut aussi se prendre par la main en disant et de toi le ciel t'aidera et on le fera ensemble. Et moi, je vais vous dire très humblement, parce que je ne pense pas avoir remplacé Bertrand de Feydeau, c'est juste une appellation non contrôlée que j'ai prise. La vraie appellation contrôlée que j'ai, c'est en ce moment en tant que grand-mère. Mais pour le reste, je pense que humblement, je vois cette énergie qui existe, cette capacité de réfléchir ensemble. Jean-Dominique Sénard a fait un article dans Le Figaro il y a quelque temps en parlant « Nous sommes dans une société à irresponsabilité illimitée. Nous ne donnons pas d'autonomie aux gens. On ne les prend pas pour des adultes. On ne leur apprend pas à travailler ensemble. » Et il ajoute « L'autonomie, ce n'est pas l'autogestion. » Eh bien, donnons de l'autonomie, de la capacité de faire, de la capacité de réfléchir. Je vous assure que le monde est plein de bonnes surprises. Je ne dis pas qu'on gagne le premier tour, mais on va traiter 80% des sujets, la loi de Pareto, on ne va pas traiter 100%, puis après on viendra par itération, on corrigera le tir, on traitera 80% des 20% restants, etc. Et comme ça, on va créer la courbe d'expérience et la capacité de faire.
Cet investissement que vous menez aussi sur votre temps, Meka, après une longue carrière dans l'immobilier, est-ce que ça illustre pas aussi le principe de citoyenneté ? Je m'explique. Une fondation fonctionne aussi avec beaucoup de bénévolat, fonctionne avec des mécènes, des partenaires. Et quelque part, vous ne réclamez pas, vous, en tant que Fondation Palladio, des subventions publiques. C'est quelque chose que vous affirmez haut et fort. N'y a-t-il pas là aussi une réflexion à avoir au sein de l'urbanité, au sein de la société, à l'implication que chacun s'interroge ou se pose comme question à son niveau, hein. Chacun en proportion de ses moyens intellectuels, ses moyens financiers, ses moyens matériels, d'investissement dans la cité. N'y a-t-il pas là, dans ce que vous faites, finalement, aussi, au-delà de ce que vous livrez, ne serait-ce que l'action par elle-même, un acte de citoyenneté très fort?
C'est une spécificité française.
Intéressant.
Les Français sont très investis dans les associations, dans les fondations, dans tout ce qu'ils font. Mais dans le domaine de la ville, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire, nous sommes, et je maintiens, c'est un être vivant, nous sommes tous impliqués, tous responsables, et puis, eh bien, ça nous permet d'appartenir à un récit national, à un récit partagé. Et l'appartenance est toujours très important. C'est ça qui donne de la force. Et en fait, ça permet... Je n'aime pas le mot carrière parce que ça entraîne une prédestination. Et je trouve ça très triste d'avoir une prédestination. Je préfère le parcours. Ça permet d'avoir des parcours, de rencontrer des gens, de rencontrer des profils, que ce soit des grandes entreprises, des petites entreprises, des jeunes, des plus... Des gens qui ont vu neiger, comme disent les Québécois, comme moi, et toutes sortes d'individus, de compétences, de capacités très diverses qui constituent la ville. Écoutez, quatre chiffres. 2, 50, 75, 80. Les villes représentent 2% de la surface du globe où habitent aujourd'hui 50%, et ça va aller jusqu'à 70% peut-être, qui utilisent 75% de l'énergie et qui émettent 80% des gaz à effet de serre. Si avec ces quatre chiffres, on n'a pas de quoi faire et de quoi travailler, je suis désolée, mais on n'aura pas fait notre travail de citoyen. Et impossible n'est pas français, c'est ce que mes professeurs m'ont toujours appris.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que, j'allais dire, le climat géopolitique est à l'inverse de ce que vous essayez de promouvoir, auquel je souscris. Moi, le premier, j'en suis sidéré, impuissant, avec beaucoup de tristesse, ce qui se passe en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, qui est un drame absolu des deux côtés, et Dieu sait que je peux en parler. Et c'est un drame, parce qu'il n'y a pas de distinction ni religieuse lorsqu'on est un enfant, ni d'où que l'on soit, d'où que l'on vienne, de quelle religion que l'on soit. Je prends juste l'exemple des enfants de migrants dans les rues de Paris. Ils sont 3000, hein, à dormir dehors tous les soirs. Alors on peut dire qu'ils sont en situation irrégulière. Ça a été écrit. Hein, bon. Mais ce sont des enfants. Donc on a aussi un souci. Et c'est intéressant parce qu'il y a cette énergie et on voit bien que les replis identitaires en Europe se traduisent aussi dans les faits, et quelque part l'immobilier accompagne un peu ce mouvement, je m'explique, par l'expulsion, par le fait de dire on n'a pas assez de place chez nous, donc repartez de là où vous êtes venu, etc. N'y a-t-il pas au-delà de votre action aussi une fonction très puissante de mixité, d'intégration, d'asile peut-être, de lieu qui fait société entre les hommes, êtres humains avec un grand H. Est-ce qu'on n'est pas là? Alors, ou est-ce que peut-être que je délire un peu et je me dis finalement, bah non, l'immobilier n'a pas cette prétention, ou la ville n'a pas cette prétention, d'être aussi la souche de l'émancipation, d'une désaliénation finalement face à des pensées complètement cloisonnées, délétères, régressives, et une, à côté de cela, inversement, une société qui veut être celle des Lumières, celle de la proclamation, à l'instar de ce que disait André Malraux, d'une forme de spiritualité moderne auquel chacun peut aspirer, quoi. Oui.
Alors, moi, je ne parlerai pas de l'immobilier en tant que tel, simplement, parce que je rappelle que pour moi, c'est vraiment, on est en bas de l'échelle de Maslow et on est au service d'eux. Tout le monde
absolument.
A besoin
d'un toit,
absolument. Pour vivre, pour travailler, pour faire des études, pour avoir du loisir, pour s'éduquer,
la crise du logement,
etc. Et on ne peut pas simplement le résoudre avec du logement d'urgence ou des mesures, en tout cas l'ampleur que ça a pris.
On est d'accord.
On a dépassé et on peut passer des heures à dire le pourquoi du comment, mais il faut se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi il faut faire. D'abord, l'importance, quand on reçoit à la maison, eh bien, il faut savoir accueillir les gens et donner de la dignité. Et moi, je suis immigrée d'origine, je suis d'origine iranienne, je suis intégrée dans ce pays et j'en serai toujours reconnaissante, mais il faut pouvoir le faire. Et le faire de façon à ce que nos invités, ceux qui viennent, se sentent chez eux et se sentent partie prenante à ce récit collectif. Ce n'est pas simple, mais cette dignité est vraiment la base, est important. Et pour moi, ce mot, c'est un mot noble. La deuxième chose, ce qu'on est en train de faire à l'Université de la Ville de demain, mais d'une manière générale, la société est beaucoup plus généreuse que ce que les réseaux sociaux nous montrent. Parce que derrière l'anonymat, en fait, on se fait peur, et quand on se fait peur,
on devient violent.
Quand on rencontre les gens en vrai, c'est pour ça que j'aime pas le mot carrière, quand vous rencontrez les gens en vrai, des vrais gens, et vous discutez avec eux, vous avez beaucoup plus de points. Les 80-20, la loi de Pareto s'applique. Vous trouverez toujours 80%. Et puis sur les 20%, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est si important que ça pour se taper dessus aussi violemment et au bout d'un certain temps, transmettre cette violence à la génération des enfants qui n'ont rien demandé? C'est ça qui est terrible.
C'est ce qui se passe.
Et donc, pour moi, nous faisons beaucoup. Les entreprises en général, la société, tout le monde, l'argent public, c'est pour ça qu'on est en recyclage. On fait beaucoup, mais on le fait mal. Portons à échelle, travaillons ensemble, réfléchissons, travaillons, utilisons nos cerveaux pour poser la question du pourquoi et pas du comment. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé ces dernières années en voulant protéger les plus, comment dirais-je, fragiles. On a créé le wokisme. Le wokisme, c'est quoi? C'est que moi, d'origine étrangère, basanée, gauchère, de groupe AB, de religion Bahaï, petite, grand-mère, des cheveux blancs, je dois choisir une de ces cases. Eh bien, je refuse. Je suis tout ça. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui fait qu'on est différent. Et c'est ça qui fait qu'on est dans cette unité, dans la diversité. Si on ne réfléchit pas comme ça, on va créer des espèces de ghettos, y compris mental, qui fait qu'on n'accepte pas l'autre.
Vous voulez dire qu'il faut absolument se définir?
Eh bien oui, ben on n'est pas obligé de se définir.
Une injonction
de choisir un camp, de ne plus avoir de débat, de ne plus avoir de nuances, de ne plus avoir des pour et des contre. Les Français m'ont appris thèse, antithèse, synthèse. Ben, ça fait du bien aussi de revenir au raisonnement cartésien, à la thèse, antithèse, synthèse, et à considérer qu'on a beaucoup plus d'énergie. Tant qu'on est vivant, on peut participer et faire bouger les choses. Comme disait ma mère, il n'y a que la mort qui n'a pas de remède et qui ne se guérit pas.
Ouais. Et moi, je connais quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas de remède à la vie non plus. C'est intéressant parce que ça nous oblige finalement à nous transcender. Dernière question, plus personnelle. Pourquoi vous faites tout ça, Mika Mounel, au lieu d'aller jouer au golf, de profiter de votre famille, des petits-enfants, que vous faites par ailleurs, vous êtes toujours aussi active. Quel est ce besoin que vous avez, vous, Mika Mounel, de toujours vous investir? Parce qu'on vous voit partout. Hein.
Alors, je suis vraiment navrée, j'essaye de me faire la plus discrète possible. Non, mais attendez, d'abord, le golf...
Moi, je trouve ça très bien, mais qu'est-ce qui illustre votre vitalité aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous pousse à vous investir toujours autant sur ces causes?
Parce que...
celle de la Fondation, celle de l'Université de la Ville de demain.
Mais parce que il n'y a pas que moi. D'abord, quand je vois tous les gens qui s'investissent, je me dis que je ne fais pas le quart du cinquième de ce qu'ils font. Donc je suis toujours admirative et en recherche de ce que je pourrais faire plus. Deux, j'ai essayé le golf, je ne suis pas douée du tout. Donc j'ai abandonné très vite et je m'ennuie. Donc voilà, chacun son truc. Trois, écoutez, ce pays m'a énormément donné, la vie m'a énormément donné. Il faut savoir de temps en temps rendre ce qu'on a reçu et être dans la transmission dans l'autre sens. Alors, mes enfants, mes petits-enfants trouvent que je ne fais pas assez, que je ne suis pas assez présente, etc. En même temps, je ne dois pas être douée pour ça et je fais de mon mieux et la vie est ainsi faite. Mais je suis tellement en admiration devant les jeunes, les moins jeunes, les actions que les gens mènent, que je me dis, il faut faire travailler les neurones encore. Et je n'ai toujours pas vérifié si les chiffres et les lettres existent encore. Donc voilà.
Merci Meka Brunel. Il y a une citation qui vous irait très bien. Celle de Victor Hugo. Je vous la donne. Il disait la chose suivante. Je préfère le futur au présent, car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours. Je pense que ça vous va plutôt pas mal.
Merci beaucoup, c'est une belle citation.
Merci Meka Brunel, je rappelle que vous êtes la présidente de la Fondation Palladio, mais aussi de l'Université de la Ville de demain. Et je gage qu'on a une intérêt de se voir plus souvent, Meka. C'est un souhait que je formule devant tous ceux qui nous écoutent.
Merci beaucoup, bonne fin de MIPIM à tous.
Merci. On enchaîne bien évidemment, il est 15h04 avec le reste de nos interviews et tables rondes. Je rappelle qu'on va parler aussi des MIPIM Awards dans l'après-midi. Restez connectés, bien sûr, sur Radio Imo.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Imo.